VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro pour ce tour d'horizon de l'actualité. Au moins 15 personnes ont été tuées aujourd'hui dans trois attentats suicides commis à Damaturu, capitale de l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Une information confirmée par l'Agence nationale de gestion des urgences, la NEMA. Présidentielle en Guinée, la commission électorale assure être en mesure de tenir l'élection à la date prévue dimanche. L'opposition, qui fait état de dysfonctionnements et d'anomalies, a pourtant demandé le report du scrutin. Même son de cloche en Côte d'Ivoire, à l'occasion d'un meeting aujourd'hui à Abidjan. Des candidats de l'opposition ont estimé que le pays n'était pas prêt à organiser un scrutin crédible et transparent. Le vote présidentiel est prévu pour le 25 octobre. Élections en République démocratique du Congo, la MONUSCO demande à Kinshasa de garantir une campagne électorale équitable, n'excluant personne, afin d'aboutir à des scrutins législatifs et présidentiels crédibles. Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU en RDC, a dénoncé un nombre croissant de violations des droits de l'homme liées au processus électoral, particulièrement à l'encontre du droit de rassemblement pacifique. Les relations entre le Burundi et le Rwanda se détériorent. Bujumbura a expulsé Désiré Ruhirira, ministre conseiller auprès de l'ambassade du Rwanda dans la capitale burundaise. Une décision confirmée par un officiel rwandais ayant requis l'anonymat sans toutefois fournir d'explication. Génocide rwandais, Kigali a exprimé sa grande déception après le non-lieu accordé par la justice française au prêtre Wenceslas Munyeshaka. Aucune poursuite introduite en France à l'encontre de personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide n'a abouti à un résultat définitif. C'est ce que dénonce l'ambassade du Rwanda à Paris. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dénoncé aujourd'hui la mort d'un casque bleu burundais de la mission de l'ONU en République centrafricaine, la MINUSCA, lors d'une embuscade mardi au nord de Bangui. Le gouvernement centrafricain envisage des mesures pour renforcer la sécurité à Bangui. Liberté de presse bafouée au Tchad. Reporters sans frontières dénonce vivement l'arrestation arbitraire du journaliste tchadien Stéphane Bayrabé Ouai N'Djamena. Il aurait été interpellé dans la nuit du 2 au 3 octobre par la police judiciaire sans mandat d'arrêt. Lutte contre Al-Shabaab en Somalie. L'organisation islamiste promet d'accueillir avec des balles les soldats britanniques. Londres a annoncé le mois dernier le déploiement de 70 militaires en Somalie en soutien à l'AMISOM, la force de l'Union africaine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise migratoire en Europe. L'opération navale Sophia de l'Union européenne a commencé aujourd'hui, jusqu'ici limitée à une surveillance à distance des réseaux de passeurs. Cette mission de lutte contre le trafic humain en mer passe désormais à une phase plus offensive. Alors que l'aviation russe augmente ses frappes en Syrie, l'armée de Bachar al-Assad a lancé aujourd'hui une série d'attaques au sol visant à éradiquer la rébellion dans le nord de la province de Hama et dans le centre du pays. Selon une source militaire citée par l'AFP, cette vaste opération terrestre a été rendue possible par l'intervention de Moscou dans la crise en soutien au gouvernement du président Assad. Washington persiste dans son rejet de l'implication russe en Syrie, que le Pentagone qualifie d'erreur stratégique. Les États-Unis ont assuré ce mercredi qu'ils ne coopéraient pas avec Moscou sur les frappes aériennes menées en Syrie. Après de 5 mois après la prise de la ville de Ramadi, capitale de la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, les forces gouvernementales soutenues par la coalition internationale semblent prêtes à déloger les djihadistes du groupe État islamique. Je m'attends à une libération de la ville d'ici fin octobre, a dit à l'AFP Adel Fadawi, membre du conseil provincial. L'opération qui a mobilisé 2000 hommes a permis à l'armée irakienne et ses alliés de reconquérir plusieurs localités proches de Ramadi. Et toujours en Irak, attaque. Le groupe extrémiste sunnite État islamique a exécuté dans l'ouest du pays 70 membres d'une tribu sunnite alliée au gouvernement. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant un chef tribal et de l'ONU. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec.
Bonsoir, chères auditrices, auditeurs de VOA Afrique. Eric Manelakiza avec vous à Washington depuis le studio 10 dans cette émission interactive, votre émission interactive. Pour vous exprimer aujourd'hui, nous revenons sur la Guinée où la Commission électorale nationale indépendante se dit être prête pour tenir la présidentielle à la date prévue, c'est-à-dire dimanche le 11 octobre. Mais l'opposition a dénoncé des dysfonctionnements et d'anomalies. Jour J, -3, c'est donc l'entrée dans la dernière ligne droite de la campagne des principaux candidats. Et on signale que le président sortant, Alpha Condé, et Selou Dalein Diallo s'apprêtaient à regagner la capitale après avoir bouclé leur tournée de l'intérieur du pays. Et la capitale guinéenne vit au rythme des chants et des danses et sous les couleurs des partisans des principaux candidats, Alpha Condé en tête. Il y a eu, vous le savez, des heurts le week-end. C'était surtout signalé des incidents localisés à Koundara, c'est au nord, le 20 septembre, et à Nzérékoré, sud-est, la semaine dernière. Aujourd'hui, la question qui se pose, peut-on avoir les élections en Guinée le 11 octobre dimanche, sans heurts, sans violence? C'est le souhait, c'est l'objectif. Nous avons des intervenants, des invités de cette émission interactive. Nous allons commencer par Madame Sidibé Béatrice Dobidjé Dupontou. Elle est directrice de campagne du candidat Sidia Touré à Nzérékoré. Madame, bonsoir.
Oui. Bonsoir, monsieur.
Et bienvenue à cette émission.
Merci.
Nous accueillons également Fodé Kouyaté, il est président de l'association des blogueurs guinéens. Fodé, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Et bienvenue à cette émission.
Merci beaucoup.
Nous aurons également des auditeurs qui vont appeler pour soit faire des commentaires ou poser des questions à nos invités. On va commencer par Madame Sidibé. Vous êtes à Nzérékoré. Il y a eu des violences le week-end dernier. Est-ce que tout est maîtrisé? Le calme est garanti?
Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur vos ondes et vous dire que nous sommes à 4 jours des élections présidentielles qui sont prévues le 11 octobre 2015. Effectivement, il y a eu des violences le 3 ici, à Nzérékoré, mais par la grâce de Dieu, je crois qu'il y a la calmie. C'est dommage parce que je pense que ces deux bords politiques devaient faire preuve de maturité.
Uh-huh.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Le président Chirac le disait il y a moins de 10 à 15 ans que la démocratie est un luxe pour certains pays d'Afrique. Et nous, pays africains, nous pensions que c'était une moquerie ou bien c'était de l'injure. Maintenant, c'est ce qui est en train de se prouver sur le terrain aujourd'hui. En matière de démocratie, tu dois savoir que là où s'arrête ta liberté, commence celle des autres. Justement, c'est cette différence qui fait la beauté de la vie. Tout le monde ne peut pas aller dans le même sens. Je pense que s'il y a une campagne ou s'il y a une réception dans un pays comme le nôtre, ceux qui ne veulent pas assister à cette réception peuvent vaquer à leurs affaires. Dommage, je pense que jusqu'à présent, notre pays, qui est la Guinée, n'a pas compris cette leçon. Sinon, ceux qui sont censés faire véhiculer ce message ne le font pas comme cela devait se faire. Et ce serait un tort et péché contre leur propre peuple. Mais Dieu merci, les gens, j'avais imaginé être un pays laïque, mais les gens vraiment ont une certaine croyance. Tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, il y a l'accalmie pour le moment. Et nous souhaitons que cela aille de l'avant.
Mmh. Et qui tire sur les ficelles, madame? Parce que vous avez demandé, qui tire sur les ficelles, vous avez demandé à toutes les parties de faire preuve de responsabilité.
Oui, c'est le RPG et l'UFDG. Mais je pense que ces choses, on devait situer des responsabilités. Il y a des autorités compétentes ici qui devaient situer les responsabilités. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes plus à cela parce que je crois que le préfet qui était là a demandé à ce que, d'un côté ou d'un autre côté, les gens devaient se calmer. Ce qui a fait d'ailleurs que nous, le lendemain, le 4 octobre, nous devions faire notre meeting. Et on a dit de sursoir à toute manifestation publique, ce qui n'est pas normal. Mais pour une question de quiétude dans la cité, nous avons accepté. Nous avons accepté pour ne pas faire la polémique parce que l'UFR est un parti pacifique. Nous prenons la paix, l'unité de tous les Guinéens. C'est ça la doctrine de l'UFR.
Mmh. Faudé, l'opposition a néanmoins exclu de boycotter l'élection comme... Elle en a laissé planer la menace. C'est quand même la bonne nouvelle aujourd'hui.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour les partis politiques. Mais le plus important, c'est un processus transparent. C'est une élection transparente. Et on peut fermer les yeux sur les anomalies. Mais si on veut être dans un État démocratique, quand on veut une élection transparente, il faut s'assurer, il ne faut pas simplement penser qu'il faut mettre les élections, c'est, en fait, c'est les élections conditionnent la paix. Donc il faut s'assurer que le processus électoral est transparent, que les élections sont organisées de façon transparente. Au nom de la paix, les gens peuvent s'engager dans le processus électoral, mais s'il n'y a pas un système fiable qui les rassure, le même cycle va revenir. En 2010, c'était le même problème. Les élections législatives, c'était le même problème. Les mêmes problèmes continuent à nous suivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ait des élections, pour qu'on puisse organiser des élections transparentes? Les autres pays, ça évolue. Mais chez nous, on regresse, c'est ça le problème. Donc, il ne s'agit pas seulement de penser paix sans pourtant penser à mettre en place les conditions qui conditionnent une vie paisible en Guinée. Donc, c'est une très bonne nouvelle que l'opposition ne compte pas boycotter, mais ce qui est plus important, c'est de faire en sorte que les élections soient organisées dans les conditions de paix, de transparence, qui puissent nous permettre véritablement d'être fiers en tant que citoyens guinéens que nous avons un système démocratique, que nous avons une CENI indépendante qui est capable d'organiser des élections qui ne sont pas contestées ni par les citoyens, ni par les parties prenantes aux élections. C'est le plus important.
Merci. Restez à l'écoute. Je demande aussi à Madame Sidibé de garder l'écoute. On va recevoir Magasuba. C'est un auditeur qui nous appelle. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Votre commentaire. Oui, ça va très bien. Et vous?
Bien, merci.
Votre commentaire ou question?
Ok, bon, selon moi, parce que moi, je vois la question là est très simple, quoi. Parce que quand on prend les deux partis, parce qu'il y a deux partis en Guinée qui sont populaires.
Ouais.
Le parti en pouvoir, qui est le RPG et l'UFDG. Bon, c'est les deux partis populaires et qui sont en train de sauver la Guinée aujourd'hui. Parce que quand on prend aujourd'hui, la question que vous avez posée, c'est très simple, mais la violence est au niveau des partis politiques et le parti en pouvoir aussi.
Mais les partis politiques, c'est aussi les membres ou les sympathisants.
Oui, oui, c'est les membres. Vous savez, aujourd'hui, en Guinée, parce que les Guinéens parlent aujourd'hui la démocratie et on ne savait pas réellement qu'est-ce que c'est la démocratie. C'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est même pas en Guinée, c'est en Afrique. Donc quand on prend aujourd'hui, parce que si on voit aujourd'hui que l'opposition demande le report du scrutin, parce qu'ils voient en avance leur défaite. Ils voient leur échec. On ne les a pas obligés d'accepter la date du 11 octobre. Ils n'ont pas été obligés. Ça a été le fruit d'un dialogue entre et la mouvance. Mais aujourd'hui, on voit maintenant à la veille de l'élection et ils sont en train de se contredire aussi encore. Donc ça ne va pas. Moi, quand même, ce que moi je suggérais, que l'opposition et le parti en place, il faudrait qu'ils fassent une preuve de sagesse. Pourquoi je parle d'une preuve de sagesse? Il faudrait que les deux partis acceptent le résultat des urnes pour éviter la violence en Guinée.
Mais les résultats acceptés devraient être issus d'un processus ou d'une élection transparente. Je pense que les blogueurs guinéens, ils ont mis en place un mécanisme pour justement garantir la transparence dans la proclamation des résultats. Mais nous allons y revenir dans quelques minutes. Nous devons d'abord recevoir aussi Omar Bailo Diallo, Lola. Bonsoir.
Ah oui, bonsoir.
Oui, vous êtes en Guinée.
Oui, je suis en Guinée.
Vous dites que sur notre page Facebook, vous dites pour éviter cette crise, il faudrait que la CENI respecte les voix du peuple.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie?
Vous dites?
Qu'est-ce que ça signifie si vous dites que la CENI doit respecter les voix du peuple?
Cela signifie les résultats ici des urnes, il ne faut pas qu'on les change. Il ne faut pas changer les voix du peuple. Par exemple, l'élection qui s'est passée en 2010, là, l'élection a été triquée. Oui. Beaucoup de cas de fraude ont été signalés, mais rien n'a été fait.
Et pour cela,
et pour cela, moi, j'ai écrit dans votre page, il faut que la CENI doit être indépendante.
Oui. Et que elle doit distribuer toutes les cartes en vue d'éviter de promouvoir. Vous parlez de l'ethnocratie.
Oui.
Et laisser les médias rapporter les résultats selon le comptage des voix.
Oui.
Merci Bailo pour votre contribution, votre commentaire. Je crois que nous avons encore un autre auditeur en ligne. On me fait signe qu'il y a un problème de téléphone avec le nouveau auditeur, mais on va se retourner vers Faudet. Faudet, il y a cet auditeur qui dit que la CENI doit respecter les voix du peuple. Est-ce que vous comprenez exactement ce que ça veut dire?
Oui, la CENI doit respecter la voix du peuple. Ça veut dire tout simplement que la CENI doit mettre d'abord à disposition un fichier électoral propre, et dans lequel fichier tous les citoyens se retrouvent, qui ont l'âge de voter, se retrouvent, retrouvent leur nom, retrouvent les informations qui les permettent d'accomplir leurs devoirs. Et que les voix-là, une fois que les citoyens auront voté, que leur voix soit prise en compte, que ça soit respecté, que les résultats ne soient pas utilisés à d'autres fins, ne soient pas manipulés, que ce soit en faveur de l'opposition ou que ce soit en faveur de la mouvance. Donc, prendre en compte la voix du peuple, eux, ils ont la responsabilité de garantir aujourd'hui ce processus-là. Tout ce qui doit être mis à contribution, toutes les compétences humaines, toutes les compétences techniques qui doivent être mises en place pour permettre cela, est dans les mains de la CENI. Donc, ils ont la responsabilité de garantir non seulement les élections transparentes, mais aussi garantir la paix, parce que c'est ce qui nous intéresse. Mmh. Et si une fois que la paix est conditionnée par les élections transparentes, la CENI ne devait pas se soucier d'abord de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils devaient préparer, les acteurs devaient préparer cela depuis très longtemps. On ne doit pas attendre à quelques jours des scrutins et commencer à sensibiliser, à faire croire aux gens que c'est maintenant qu'on est soucieux de la paix. Et tout le temps qu'on a passé, tout ce qui conditionne la paix, on ne fait rien. Mmh. Donc c'est ça le problème.
Oui, merci Faudet. Madame Sidibé, on a entendu que la CENI n'inspire plus confiance aux différents acteurs en compétition. Vous êtes directeur de campagne du candidat Sidia Touré, je pense qu'il est placé troisième parmi les candidats, disons, les plus importants. Est-ce que vous avez confiance en la CENI, vous, au sein de votre parti?
Vous savez, la CENI telle qu'elle est, la CENI est instrumentalisée par l'appareil étatique. C'est ce que j'ai dit une fois lorsqu'on parlait de la CENI, camarades, avant les législatives. Tout le monde criait la CENI, la CENI. J'ai dit, mais écoutez, c'est pas la CENI. La CENI à lui-même, c'est un commis de l'État qui aujourd'hui obéit aux ordres de l'appareil étatique, c'est-à-dire du président de la République. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité telle qu'elle se présente. C'est clair et net. La CENI ne fait que suivre les ordres d'un certain nombre de personnes, notamment de l'État et du président de la République. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'enrôlement des mineurs. Mon frère, je me demande, est-ce que les cadres guinéens, parce que le minimum qu'on puisse dire, il faudrait que nous ayons la probité morale. Il faudrait qu'on se dise que ce peuple a tellement souffert depuis la création de ce pays à l'indépendance. Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel. C'est dommage et c'est regrettable. Uh-huh. C'est pourquoi, que ce soit les Guinéens, surtout les Guinéens de la diaspora, et ceux de la Guinée ici, doivent se donner la main. Ce problème est tellement important que nous devons voir cette Guinée en face. La souffrance, lorsque vous partez en Angola, les jeunes qui sont dans les prisons en Angola, aux États-Unis, en France, à travers le monde entier. Mais c'est des gens qui ont soif de venir chez eux. Mais comment venir chez eux, avoir un logement décent, avoir des routes, avoir de l'électricité, avoir de l'eau? C'est ce qu'on est en train de discuter. Lorsqu'on fait l'enrôlement des jeunes de 12, 13, 14 ans, lorsqu'il y a des doublons à l'heure où je vous parle, beaucoup n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Moi qui suis à Vérecourt aujourd'hui, on va retrouver ma carte d'électeur à Koussa. Vous voyez cette mascarade électorale qu'on organise? Qu'une seule personne peut être enrôlée 10 à 20 fois. Si vous, monsieur qui vous me parlez, vous êtes enrôlé 20 fois, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, c'est d'un. Deuxièmement, depuis le 1er septembre jusqu'au 6 octobre, les cartes d'électeurs devaient être disponibles dans toutes les villes de Guinée. Mais vous allez voir, jusqu'à l'heure où vous et moi nous parlons, certains n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Le fichier n'est pas du tout. Les maires, l'élection des maires, la nomination des maires, jusqu'à l'heure où vous et moi nous parlons, le décret n'est pas sorti encore. Et nous sommes demain jeudi. C'est-à-dire, moi je voudrais lancer un appel aux Guinéens, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient de la Guinée ici, qu'ils soient vivants en Guinée ici, qu'ils regardent ce peuple qui a tant souffert. Ceux qui ont demandé l'indépendance dans la communauté, nous ne pouvons pas nous approcher de ces personnes aujourd'hui. Des pays sahéliens comme le Sénégal, comme le Mali, comme le Burkina Faso, nous ne pouvons pas nous comparer à ces pays. Je voudrais que la diaspora, c'est ce que je dis, ceux qui souffrent aujourd'hui, c'est les femmes et la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes en train de faire le porte-à-porte. Je dis à la jeunesse de la Guinée forestière, allez-y dans toutes les familles, demandez-leur de voter pour le président Sidy Touré. Nous ne voulons plus d'apprentis. Quelqu'un qui dit que je ne connais pas la Guinée. Si mon jeune frère était en vie, c'est lui qui connaissait. Mais ça c'est la fiasco.
Madame,
on n'a plus besoin d'apprentis à la présidence de la République. Nous voulons un gestionnaire des ressources humaines. Nous voulons quelqu'un qui peut diriger ce pays dans l'intérêt de tous les Guinéens.
On va revenir.
Nous, on parle du programme.
On va revenir sur ça, madame. Nous devons recevoir d'autres auditeurs qui nous appellent. Il y a Mohamed Fofana. On m'a dit que c'est Jean-François Mami. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, comment ça va en Guinée?
Oui, allô.
Allô, oui.
Oui, Jean... bonsoir.
Oui, votre commentaire.
Oui, merci de m'avoir passé la parole. Mon commentaire est la suivante. Je vois que le processus électoral qui s'effectue actuellement en Guinée, on n'a plus le droit de faire recours à la violence. C'est que là, on doit comprendre que celui qu'on doit le choisir doit être le vœu de la Guinée et le vœu de tous les Guinéens. Celui qui doit venir au pouvoir doit faire l'affaire de la Guinée. On a vu les jeunes en train de sommer, alors là, il n'y a pas de bleu, chacun est en train de se battre pour son quotidien. On ne gagne rien, la population est en train de souffrir. Donc, tout ce que j'aimerais et puis solliciter et dire à mes frères guinéens, c'est que la violence n'a plus de sa place dans la société. On doit préserver la paix. On doit regarder la CENI de la manière qu'elle a composée ou bien organiser les élections, on doit le suivre. On doit le suivre en faisant comment? En tant que citoyen guinéen, on doit voter. Je dois recevoir ma carte. Si je reçois ma carte, je vais voter. Et après le vote, je reviens à 18h pour suivre les membres de la CENI, faire ce qu'ils doivent faire. Mais en tant que guinéen, je ne dois pas aller me coucher à la maison et puis après je dis que mon candidat n'a pas eu, et je n'ai pas été au décompte. Donc, ce que j'aimerais dire à mes frères guinéens, c'est de préserver la paix, l'unité et la solidarité. On n'est pas dans un pays de jungle où la force, on fait toujours recours à la force. Donc, j'invite mes soeurs parents à préserver la paix et à choisir l'homme qui voudra faire le mieux, le vœu de la Guinée. Donc, tel a été mon commentaire aussi.
Merci pour votre commentaire très riche en sagesse. On prend une petite pause et puis nous revenons vers vous.
Au revoir.
la Guinée dans Antenne Libre.